RFI 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal, c'est avec vous, Pierre Boudéas.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Au Burkina Faso, les comploteurs n'en ont plus pour longtemps, c'est ce qu'affirme le capitaine Ibrahim Traoré qui menace donc ses supposés adversaires. Le président de transition demande l'extradition du lieutenant-colonel Sandaogo en exil au Togo. Le Sénégal voit sa note financière dégradée. L'agence de notation Moody's s'inquiète du dernier audit des finances publiques révélé par Dakar. Le Sénégal devra se financer plus cher sur les marchés financiers. Les bureaux de vote ont ouvert en Tunisie. 10 millions d'électeurs sont appelés à choisir leur futur président. Un match à trois noms largement écrasé par celui du sortant Kais Saied. Et puis l'armoire à trophées d'Ali Farka Touré va pouvoir revenir à la normale. Le Grammy Awards volé à l'artiste malien a été rapporté. Sa famille avait lancé un appel pour le retour du trophée glané en 1995. Au Burkina Faso, le président de transition s'est donc prêté au jeu des questions-réponses. Le capitaine Ibrahim Traoré devant les auditeurs de la radio publique RTB hier. L'occasion de s'exprimer sur la tentative alléguée de déstabilisation que son régime a récemment dénoncée. Selon lui, tous les comploteurs devront en assumer les conséquences. Ibrahim Traoré souhaite également l'extradition de son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damimba, actuellement en exil à Lomé. Des contacts, dit-il, sont déjà en cours, Magali Lagrange.
Pendant 80 minutes, le capitaine Ibrahim Traoré répond aux questions d'auditeurs sur la lutte anti-djihadiste ou la situation politique et économique. Face aux tentatives de déstabilisation, il entend désormais durcir le ton.
Les comploteurs, actuellement, nous avons passé 2 années à sensibiliser, à parler, à mettre en garde. Les gens trouvaient qu'on mettait trop en garde. Mais c'était nécessaire pour que les Burkinabés voient d'eux-mêmes jusqu'où certains Burkinabés peuvent aller contre la patrie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, chacun va assumer.
Parmi les personnes que le Burkina Faso a récemment accusées de tentatives de déstabilisation figure l'ex-chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damimba, en exil au Togo. Selon le capitaine Traoré, des contacts ont été pris avec les autorités togolaises.
Il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Actuellement, je pense qu'eux aussi doivent être choqués et surpris. Nous sommes parlé déjà au téléphone. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets. Une fois qu'on le fera, vous serez situé sur cette question.
Ibrahim Traoré est aussi revenu sur l'attaque de fin août contre les populations de Barsalogo. Elle visait sa personne, affirme-t-il, compte tenu des rapports qu'il a déjà eus avec cette commune quand il était en poste dans la région. Les responsabilités seront situées d'ici quelques jours et les sanctions vont tomber, prévient le chef de l'État burkinabé.
Le capitaine Traoré a également laissé entendre que les enfants des victimes de la tuerie de Barsalogo pourraient être reconnus pupilles de la nation, comme l'ont été 236 orphelins mineurs des forces de défense et de sécurité en septembre. Au Tchad, le parti des transformateurs pose ses conditions pour une participation au scrutin législatif et local prévu en décembre prochain. La formation de l'ex-premier ministre Succès Masra était réunie en convention depuis 2 jours pour décider d'un éventuel boycott. Ceux qui dénoncent un hold-up électoral lors de la présidentielle de mai accepte finalement de participer si et seulement si le scrutin est reporté à 2025. Objectif, permettre de venir en aide aux personnes touchées par les violentes inondations qui secouent le pays, mais également discuter d'un éventuel redécoupage électoral. Au Ghana, la manifestation de 3 jours contre les mines d'or illégales s'est achevée hier soir par une veillée. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Accra en hommage à la 50aine de manifestants détenus et pour dire que la lutte est loin d'être finie. Reportage sur place de notre correspondant Victor Cariou.
Des centaines de bougies allumées brandies une à une haut vers le ciel pluvieux devant l'Accra Sports Stadium. La foule, elle, scande en chœur le nom des 53 manifestants arrêtés. Parmi eux, Ezekiel Adi, étudiant à Accra.
Nous continuerons de manifester tant qu'ils ne libèrent pas nos amis. Ce ne sont pas des criminels. Les vrais criminels sont ceux qui polluent nos rivières. Ce sont eux qui doivent être arrêtés.
Devant eux, un écran géant diffuse les images de rivières couleur ocre polluées par le Galamsey. Un sujet maintenant au devant de la scène selon Joe Jones, Ghanéen d'une 20aine d'années.
Si l'on ne fait rien, nos enfants vont souffrir. Ici, au moins, on voit des gens qui n'approuvent pas cette absurdité. Le mouvement grandit doucement et je crois que justice sera rendue, si ce n'est pas par le gouvernement, ce sera par le peuple.
Plusieurs milliers de personnes réunies, des pétitions envoyées au gouvernement, le tout sans accroc avec la police. Aucun doute, ces 3 jours ont été une vraie réussite pour Emmanuel Sarpong, l'un des organisateurs.
Quand on a commencé à en parler sur Internet, beaucoup de monde pensait qu'on ne serait pas capable de réunir autant de gens. Donc, voir toutes ces personnes de plus en plus nombreuses chaque jour, c'est définitivement une victoire.
Le collectif donne maintenant une semaine aux autorités pour répondre à leurs demandes, sous peine de retourner dans la rue. Victor Cariou, Accra, RFI.
Des grèves et autres manifestations contre le Galamsey, notamment organisées par la Conférence des évêques catholiques, sont prévues la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, la note du Sénégal dégradée par Moody's. Vendredi soir, l'agence de notation américaine a abaissé la note du pays ouest-africain à B1 en raison d'un déficit budgétaire, mais également d'un endettement nettement plus important que prévu. Claire Fage.
Moody's tire les conséquences de l'audit des finances publiques réalisé par les nouvelles autorités de Dakar. Celles-ci ont révélé la semaine dernière que le déficit budgétaire atteignait 10% du produit intérieur brut, deux fois plus qu'annoncé par le gouvernement précédent, et que l'endettement frôlait les 80% du PIB, soit 10% de plus qu'annoncé antérieurement. L'agence de notation américaine abaisse donc la note du pays de BA3, la catégorie spéculative, à B1, la catégorie très spéculative. On est encore loin du défaut de paiement caractérisé par la note C, mais cela signifie que le risque associé au Sénégal augmente. Les taux d'intérêt qui lui sont appliqués vont grimper, précise-t-on chez Bering Point. Cela va forcer le gouvernement à être vigilant et à discuter avec le Fonds monétaire international qui a revu à la baisse la croissance du pays de 7,1% à 6%. On attendait une réaction épidermique des marchés, commente de son côté l'économiste sénégalais Meïssa Babou. Mais avec les perspectives économiques et l'engagement du pays à corriger tout cela dans le court terme, la confiance devrait revenir, juge-t-il. Les autorités de Dakar ont promis de réduire le déficit en 2025 et de faire revenir l'endettement sous les 70% du PIB.
En République démocratique du Congo, la vaccination contre le Mpox débute aujourd'hui dans le sud Kivu. Lancement initialement prévu à Kamagnola, à 60 km au sud de Bukavu, mais finalement délocalisé à Luiro, à 40 km au nord de la ville, pour des raisons qui n'ont pas été expliquées. Hier, la première des 265 000 doses reçues par Kinshasa a été injectée à un médecin de Goma lors d'une cérémonie. Le président congolais a, lui, boycotté hier le huis clos de l'Organisation internationale de la francophonie, Félix Tshisekedi, en colère après qu'Emmanuel Macron ait omis de citer l'Est de la République démocratique du Congo dans les grands conflits mondiaux. Un couac de dernière minute qui a terni la clôture de cette 19e édition du congrès de l'OIF, la première en France depuis 33 ans. En Tunisie, les bureaux de vote ont ouvert il y a maintenant un peu plus d'une demi-heure. 10 millions d'électeurs élisent leur futur président. Un vote sous le feu des critiques de l'opposition. Elle dénonce des irrégularités dont le filtrage des candidatures. Plusieurs candidats n'ont en effet pas été autorisés à se présenter au scrutin alors que la justice les avait autorisés à le faire. Seuls deux candidats feront donc face au sortant Kais Saied qui part largement favori. Amira Souleym nous fait le portrait des trois prétendants à Carthage.
Il y a d'abord Kais Saied, que l'on surnomme désormais l'hyper-président. Alors qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs en 2021, le maître de Carthage est bien déterminé à y rester. Dans certains de ses discours, il a ainsi clairement annoncé qu'il ne laisserait pas le pays à des personnalités qu'il qualifie de non-patriotes. Kais Saied peut d'ailleurs donner l'impression d'agir comme s'il avait déjà gagné, lui qui a opéré fin août un très large remaniement suivi d'une valse des gouverneurs. Face à lui, deux hommes, Zouheir Marzawi, ex-député panarabe, qui cherche désormais à se tailler une stature d'homme d'État. Lui qui a très longtemps soutenu le président tunisien, le tacle et critique désormais ouvertement. Sillonnant les régions de Tunisie, il a mis l'accent sur les problématiques sociales et économiques dans son programme. Quant au dernier candidat, celui-ci suivra la présidentielle depuis sa geôle. Ayesh Zemel, homme d'affaires qui a fait fortune dans l'agroalimentaire, a été emprisonné pour des faux parrainages supposés. Son équipe de campagne crie au coup monté et a défendu son programme à sa place en son absence. Tout en demandant sa libération, ses proches avaient aussi conscience que la case-prison pouvait polir son image de martyr de la liberté. Amira Suilem, Tunis, RFI.
Un grand enjeu de ces élections, c'est la participation. Au début de l'année, seuls 12% des électeurs s'étaient présentés à leur bureau de vote à l'occasion des municipales. Le Soudan, toujours théâtre d'exactions contre les civils, c'est en tout cas ce que dénoncent plusieurs organisations des droits de l'homme. Elles pointent cette fois la responsabilité de l'armée régulière. Selon elles, les forces du général Al-Bouran auraient profité de leur récente reconquête de certains quartiers de Khartoum pour se livrer à des exécutions sommaires. Leur cible, de jeunes hommes accusés d'avoir collaboré avec les forces de soutien rapide. Et selon Samir Ali Makin de l'organisation Avocats d'urgence, plusieurs dizaines d'entre eux auraient été tués.
Selon les informations que nous avons pu recueillir, certaines personnes ont collaboré avec les forces de soutien rapide. Et quand l'armée a pris le contrôle du quartier d'Al-Faya, ces gens soupçonnés de collaboration ont été arrêtés et abattus par l'armée. Sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on entend des soldats les accuser d'être des collaborateurs. Mais collaborer peut vouloir dire plusieurs choses. Ces hommes auraient dû être traduits devant la justice. Il faut juste apporter des preuves qu'ils sont des paramilitaires ou qu'ils ont collaboré avec des paramilitaires. Cet incident nous inquiète car ce n'est pas la première fois que l'armée agit de cette façon. On nous a rapporté des cas similaires à Omdurman et dans le Mont Nouba. Et l'armée n'est pas seule. Les deux belligérants se livrent à ce genre d'exactions.
Et puis une bonne nouvelle pour finir au Mali. Grand soulagement pour la famille d'Ali Farka Touré. Volé la semaine passée dans la maison familiale à Bamako, le Grammy Awards du musicien a été ramené dans la nuit de vendredi à samedi. C'est le gardien de la famille qui a retrouvé l'objet dans un sac en plastique après un appel à son retour lancé par les proches du chanteur. Le fils d'Ali Farka Touré, vieux Farka Touré, est donc soulagé. Propos recueillis par Guillaume Thibault.
On a retrouvé le trophée là. Ce matin, vers 6h du matin, le gardien l'a trouvé devant la porte à côté. Dieu merci, ça a été retrouvé, mais cassé. Parce qu'ils ont cherché à voir que voilà, ce n'est pas de l'or, donc ils ont ramené quoi. Je suis très très content. J'étais tellement épuisé, fatigué ces deux jours que ce n'est pas possible. Parce que c'est quelque chose qui est très très compliqué. Voilà. Et là, je suis vraiment fier. Je pense que ce n'est pas à moi seul. C'est un bonheur pour tous les Maliens. Et en réalité, je remercie tous les Maliens, tous les Africains, tous les Européens, les Américains, le monde entier pour tout l'effort qu'ils ont fourni. Aujourd'hui, c'est la fête. Comme on dit chez nous, c'est la fête au village. Donc, c'est bon. Et là, je suis vraiment content de savoir que les Maliens tiennent à cœur, voilà, ce monument de la musique.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Suite et fin maintenant de RFI Matin avec vous, Julien Coquel-Rohem.
Merci.